La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
La tête.
Une histoire moderne de la méchanceté médiatique, voilà le sujet qui nous rassemble cet après-midi dans La Tête au Carré, à l'heure où les réseaux sociaux ont explosé, où chacun peut s'exprimer personnellement et librement. La méchanceté semble avoir largement étendu son territoire. François Jost est sémiologue, il s'intéresse à ce sujet en plongeant dans l'histoire des médias. Et depuis Harakiri, le journal autoproclamé bête et méchant, la méchanceté a trouvé dans les médias les conditions favorables à un large épanouissement. C'est donc le dossier de l'émission cet après-midi avec vos messages. Toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui le GIEC qui fête ses 30 ans et c'est un tournant dans son histoire.
Oui Mathieu, grâce à ces experts, nous savons que nous sommes responsables de notre sort climatique. Quelle sera la place du GIEC dans la transition qui s'annonce? On en discute avec nos invités dans un instant.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission préparée aujourd'hui par Thomas Lehété avec Anna Massardier.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La méchanceté en acte à l'ère numérique, c'est un livre qui paraît au CNRS Éditions et dont vous êtes l'auteur, François Jost. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors c'est un livre qui raconte une histoire de la méchanceté dans les médias, mais également qui montre l'évolution de ce que vous appelez des meurtres symboliques. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme très fort ?
Le fait que la méchanceté, c'est toujours vouloir éliminer l'autre, et parfois, quand la méchanceté prend plusieurs visages, a plusieurs noms, mais quand elle devient de la haine, elle devient effectivement une envie de tuer l'autre, une sorte de vengeance par anticipation, comme le dit Jean-Luc Nancy.
Voilà, c'est une histoire donc que vous avez explorée avec un certain nombre d'exemples, d'émissions, de presse, et puis on va en discuter dans un instant avec vous, et les messages, les questions des auditeurs qui nous retrouvent sur le site de La Tête au Carré.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Le GIEC a 30 ans, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est né donc en 1988 lors du G7. Il fête son anniversaire demain au siège de l'UNESCO à Paris.
Notre planète se réchauffe, voilà ce qu'annonce un rapport d'experts des Nations Unies. Ils ont constaté une modification du climat, due en grande partie aux activités humaines.
Combustion du charbon, du bois et des hydrocarbures, jusqu'à présent cela n'était pour les experts qu'un soupçon, mais ils parlent désormais de fortes présomptions. Des températures toujours plus élevées, des périodes de sécheresse toujours plus fréquentes, avec pour conséquence directe une multiplication des feux et des inondations. Enfin à tout cela pourrait s'ajouter une impressionnante fonte des glaces, surtout au pôle Nord. Alors si ce rapport des scientifiques peut paraître pessimiste, il montre quand même l'urgence de la situation.
Voilà, ça c'était le journal de TF1 en 1995. La majeure partie, si ce n'est d'ailleurs toutes les prédictions faites par le GIEC en 95 dans son second rapport, sont aujourd'hui devenues des réalités. Le réchauffement climatique est démontré et ses effets aussi sont largement compris. Quelle est aujourd'hui la place du GIEC dans la politique environnementale mondiale? Axel, on en discute avec nos invités à l'occasion donc de ses 30 ans.
Oui Mathieu, nous sommes dans ce studio avec Hervé Kempf, rédacteur en chef du magazine Reporter.net. Bonjour.
Bonjour Axel.
Et en duplex depuis les locaux de Radio France à Lyon avec Michel Damian. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et professeur à l'université Grenoble-Alpes. Alors Michel Damian, le GIEC a 30 ans et pourtant les émissions de gaz à effet de serre ne font qu'augmenter. Est-ce qu'il y a matière à célébrer ?
Il y a absolument matière à célébrer pour deux ou trois raisons. La première, le GIEC nous a appris que le réchauffement en cours était au moins pour 50% d'origine humaine depuis 1950, si ce n'est pour 100% d'origine humaine. Mmh. La deuxième chose que nous a appris le GIEC, c'est que même si l'on arrêtait aujourd'hui toutes les émissions de CO2, les modifications climatiques sont là pour des siècles. C'est un message trop peu entendu.
Et vous aviez dit trois.
Oui, c'est ça, moi j'attends aussi le troisième point.
La troisième, c'est que le GIEC aujourd'hui entame, me semble-t-il, un profond tournant.
Ça veut dire que la mission première est terminée ? La démonstration est faite ?
On en sait suffisamment sur l'essentiel, alors on pourra parler des incertitudes, elles sont multiples, mais on en sait suffisamment sur l'essentiel, sur le réchauffement d'origine anthropique, sur des modifications qui sont là pour des siècles. Donc maintenant, la seconde phase qui a été annoncée, voulue par le nouveau président du GIEC, un économiste sud-coréen lors de son élection il y a 2 ans, la nouvelle phase, c'est réfléchir aux solutions. Et là, les débats, les conflits, les tensions sont devant nous pour longtemps.
Donc tout va changer, c'est ce que vous dites. Est-ce que c'est enclenché ce changement de façon de travailler pour les scientifiques du GIEC ?
Alors, tout va changer, il ne faut pas voir les choses de manière, en termes de rupture. Le GIEC est engagé aujourd'hui dans 2 types de travaux. Des travaux intermédiaires, si je puis dire. Un rapport est à paraître en septembre de cette année sur les 1,5 degrés de réchauffement à ne pas dépasser. On connaît déjà les grandes lignes ou certaines grandes lignes de ce rapport. Et le GIEC est également engagé à l'horizon 2021-2022 vers la publication de son 6e rapport, le premier ayant été publié en septembre 1990. Là, les choses sont beaucoup plus ouvertes. Donc, les scientifiques eux-mêmes, il y a énormément de publications en ce moment sur différents domaines, les variations régionales, les variations climatiques régionales, la liaison entre émissions et puis niveau de réchauffement. Voilà. Mais l'enjeu aujourd'hui, ce sont les solutions sur lesquelles réfléchissent les scientifiques du GIEC.
Michel Damian, est-ce que finalement le GIEC n'a pas fini son travail? Comme le rappelait Mathieu, tout ce qui a été dit et anticipé par le GIEC s'est trouvé concrétisé, s'est trouvé réalisé, c'est-à-dire que le travail scientifique climatologique est fait. Et maintenant, il reste de la science sociale, il reste de l'analyse, mais est-ce que ça c'est vraiment le travail de climatologue? Et pour poser la question d'une autre façon, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe que les émissions n'aient jamais autant augmenté que depuis que le GIEC existe? Et donc, est-ce que quelque part le GIEC sert à quelque chose? Est-ce que la science peut agir sur la société?
La science peut-elle agir sur la société? Vous savez très bien, cher Hervé Kamp, que cette question est difficile et que la science n'agit pas sur la société. Les scientifiques peuvent avoir raison et ce n'est pas cela qui emporte les décisions et les grands mouvements de la société. Donc, le GIEC, pour moi, n'a pas fini son travail de scientifique. Mais sur des points, non pas de détails, mais ce ne sont plus les grandes questions. Le climat se réchauffe-t-il ou pas? Pour combien de siècles, etc. Ces choses-là sont connues. Maintenant, la question, hormis les questions qui restent à traiter par le GIEC, est-ce que le GIEC peut être un facilitateur des débats? Je crois que là, ce n'est pas le travail du GIEC et on fait jouer au GIEC un travail qui n'est pas le sien. Et je pense que les scientifiques du climat, y compris ceux qui acceptent d'être fortement médiatisés, sont tout à fait conscients que le GIEC ne peut pas être à lui seul, en tout cas ne peut pas être le facilitateur des débats avec les diplomates, les experts, les politiques, la société, les mouvements environnementalistes, etc. Non, ce n'est pas le rôle du GIEC.
Mais Michel Damian, pour continuer à travailler, les experts du GIEC vont avoir besoin d'argent. Alors on sait que les États-Unis, qui fournissaient 30 à 40% du budget de fonctionnement, ne veulent plus donner d'argent. Est-ce que ça va pas mettre un coup d'arrêt?
En tout cas, le GIEC, l'an dernier, a créé une commission spécifique pour envisager la question nouvelle de ce financement, des restrictions financières, suite à l'attentisme et au blocage de Bush. Il faut aussi se souvenir que Barack Obama lui-même n'a versé que 2 chèques de $500 000 pour aider à la réduction des émissions et à l'adaptation au changement climatique dans le cadre de ce que l'on appelle le fonds vert. Mais la grande question en ce moment, c'est effectivement qui peut, qui pourra, y aura-t-il quelqu'un pour suppléer au rôle dominant des États-Unis dans le financement du GIEC? À mon avis, il n'y aura personne pour contribuer à la hauteur de ce qui va manquer.
Allez, dernière question très vite, Michel Damian.
Est-ce que la Chine pourrait le faire?
Vous savez très bien que la priorité de la Chine, c'est la stabilité intérieure, la stabilité internationale et tout ce qui est bon pour avoir un ciel bleu en Chine, l'expression est chinoise, et un ciel bleu au niveau international est bon pour la Chine. La Chine fera tout ce qui est en sa possession, sa possibilité pour assumer ses responsabilités. Elle ne brandira pas volontairement le drapeau pour avoir le leadership climatique comme certains auteurs, certains journalistes ont proclamé depuis quelques mois. Je ne pense pas.
Merci Michel Damian. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur à l'université Grenoble-Alpes. Vous étiez en duplex des locaux de Radio France à Lyon. Hervé, un coup d'œil sur reporter.net.
Oui, à la une interview avec Jean-Luc Mélenchon où l'on apprend que le député des Bouches-du-Rhône a plus lu Teilhard de Chardin que Marx et où il explique qu'il bâtit sa théorie sociale en se fondant sur l'astrophysicien Stephen Hawking. Mmh. Il y a des surprises comme ça. Ouais. Aussi, une étude de chercheurs de l'Institut National d'Agronomie sur l'agriculture urbaine qui montre qu'elle est très efficace. Et puis un reportage sur le parc naturel de la Doñana en Andalousie, en Espagne. Un parc très beau, très grand, mais menacé malheureusement par le changement climatique et l'agriculture intensive qui pompe trop d'eau.
Voilà, pour lire tous ces articles, reporter.net sur le web. Merci beaucoup Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le Vanuatu, l'île la plus diversifiée en langue parlée. En 2016, une équipe de l'Université d'Australie avait conclu que les premiers habitants du Vanuatu, île alors vierge de toute vie humaine, étaient des migrants venus du sud-est de l'Asie, appelés les Lapita, population à laquelle sont venus par la suite se mêler les Papous présents dans les îles voisines depuis 50 000 ans. Et bien, dans ces nouvelles recherches, les scientifiques révèlent que la force de la culture Lapita apparaît aujourd'hui encore dans la persistance de leur parler, qui s'est déclinée en 120 langues, faisant ainsi du Vanuatu l'endroit sur la Terre où cohabitent le plus de langues par habitant. Chez les termites, les plus âgés ont le sens du sacrifice. Selon une étude publiée dans Biology Letters, ce sont les vieux soldats termites qui se mettent en première ligne pour défendre le couvain, stérile et sans ailes. Ils se servent de leur tête pour bloquer les entrées de la termitière à tout intrus. Et leur chance de survie pendant la bataille est alors très faible, conforme à la théorie des histoires de vie que l'on retrouve chez les insectes sociaux. Les plus jeunes soldats se placent dans le centre de l'habitacle et cette intelligence collective chez les termites permet ainsi de maintenir la colonie plus longtemps en vie. Et puis devenez peut-être le prochain gagnant du concours international de photos scientifiques avec le hashtag Scientist at Work. Après avoir remporté un franc succès l'an passé, le magazine Nature relance son concours de photos scientifiques amateurs. Il suffit de capturer un instantané du quotidien d'un scientifique, ajouter le mot-clé Scientific at Work sur Twitter ou Instagram. Et vous avez jusqu'au 31 mars pour envoyer votre cliché. Les gagnants verront leurs photos publiées dans les pages de Nature du 26 avril et recevront un an d'abonnement au magazine. Allez, la méchanceté en acte, c'est le dossier de l'émission dans un instant. Cococo et c'était Licolo à l'instant.
La tête au carré. Sur France Inter.
François Jost, ravi de vous accueillir pour la première fois dans La Tête au Carré. Vous êtes notre invité à l'occasion de la parution de cet ouvrage La méchanceté en acte qui sort aux éditions du CNRS. Vous êtes sémiologue, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle et fondateur du Centre d'études sur les images et les sons médiatiques. Alors de quoi s'occupe un sémiologue exactement? J'en ai peu reçu dans cette émission.
Un sémiologue, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre qu'est-ce qui fait sens dans un certain nombre de matières, que ça soit la langue, ou que ça soit les signes audiovisuels. Et donc, en fait, il essaye d'expliquer comment la compréhension se fait dans l'image et à partir de l'analyse de l'image.
Ouais, quand on regarde la définition dans le dictionnaire, hein, c'est science qui étudie le système des signes.
Oui, des signes.
C'est quoi les signes exactement? Parce que c'est assez flou, on peut y mettre plein de choses.
Il y a beaucoup de discussions autour de ça, mais disons que dans une image, il y a des signes visuels, des signes écrits, des signes verbaux.
On pourrait dire des codes aussi, ou c'est
alors,
un petit peu différent?
Les codes, c'est des façons de comprendre les signes. Ouais. Ce sont des filtres pour comprendre les signes. Mais effectivement, c'est un des ancêtres de la sémiologie du cinéma, Christian Metz, disait la sémiologie, c'est comprendre comment on comprend. Alors, c'est pas seulement la seule science qui fait ça. Évidemment, les sciences cognitives sont très importantes. Mais c'est comprendre dans les visuels, dans les affiches, dans les magazines, comme dans mon livre, ce qui fait sens et ce qui donne parfois des sens incompréhensibles ou dérivés.
Vous êtes proche de la sociologie, à bien des égards, non?
Alors, je suis aussi proche de la sociologie, mais c'est un petit peu malgré moi. Bien sûr, j'ai une formation philosophique, donc j'ai fait de la sociologie. Très souvent, on m'a dit que j'étais sociologue dans les médias.
Oui,
donc,
oui.
Comme je le dis, j'ai fini par le croire.
C'est ça, c'est ce que vous écrivez en tout cas. Ouais.
Je cite effectivement des grandes références comme Goffman ou comme Bourdieu. Donc oui, j'utilise beaucoup quand même les instruments de la sociologie.
Ouais. Alors, sur la couverture de ce livre, vous avez choisi le visage de Jack Nicholson, qui incarne le Joker dans Batman, pour illustrer la méchanceté. Alors ça, c'est épatant. Hein,
c'est une idée de mon éditeur, mais je trouve qu'elle est très belle. Et puis, j'avais fait un livre avant qui s'appelait Les Nouveaux Méchants, qui était sur la méchanceté dans les séries. Et il y avait la figure de Walter White, le héros de Breaking Bad, qui était coupé exactement au milieu. Donc ça fait on peut acheter les deux livres et faire un puzzle.
Et c'est le prolongement donc, de vos travaux. Et vous dédiez votre ouvrage à tous les méchants qui vous ont donné envie d'écrire ce livre. Ils sont nombreux, vous en avez croisé beaucoup sur votre route?
Alors ils sont assez nombreux, oui, bien sûr. Dans l'univers professionnel qu'est l'université, il y en a beaucoup. Et comme j'ai par ailleurs écrit sur des site internet, notamment le site de l'Obs, le Plus, j'ai éprouvé très souvent des commentaires d'une grande méchanceté qui visait plutôt à me détruire qu'à discuter, donc j'ai pensé à tout ça et c'est un peu vécu, si vous voulez, ce livre.
On en reparlera avec vous dans quelques instants. Alors d'abord, ce mot de méchanceté, il est presque enfantin au fond, et pourtant, on le disait tout à l'heure, vous parlez de meurtre symbolique dans votre ouvrage, donc c'est sérieux quand même cette histoire.
C'est vrai, c'est on peut pas s'empêcher de penser que c'est un mot un petit peu enfantin, mais enfin je rappelle que un philosophe comme Jean Kelevitch a écrit un livre qui s'appelait L'innocence et la méchanceté, et je ne pense pas que Jean Kelevitch fût spécialement enfantin
ou écrivant pour les enfants.
Écrivant pour les enfants. Non, c'est très difficile de trouver un autre mot, mais le livre est aussi une sorte de déclinaison de ce mot en plusieurs autres mots.
C'est ça.
C'est-à-dire la médisance.
Il y a des gradations de la méchanceté.
Voilà, il y a une gradation, ça commence avec la médisance et puis ça finit avec la haine. Tout ça rentre dans le vocable méchanceté.
Écoutons Guy Debord, par exemple,
puisque
vous le citez.
Oui.
Et puis c'est une façon d'illustrer justement cette question dans le cadre de la société du spectacle en particulier que Guy Debord a rendu célèbre et populaire.
Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. En tant que partie de la société, il est le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Du fait même que ce secteur est séparé, il est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience. Et l'unification qu'il accomplit n'est rien d'autre qu'un langage officiel de la séparation généralisée.
Voilà, La Société du Spectacle, cet ouvrage de Guy Debord dans les années 70, je crois que c'est
1967, bien et puis avant. Il est revenu après avec commentaire sur la Société du Spectacle au début des années 90.
Ouais. Ce terme, est-ce qu'il est toujours aussi valable de la même manière?
Non,
en tout cas, est-ce qu'il est sur le même sens?
Non, parce qu'on l'a vraiment trop employé n'importe comment. Ouais. On a tendance à dire maintenant le spectacle, c'est le spectacle télévisuel, etc. Ça voulait dire autre chose chez Guy Debord, comme on l'entend dans cet extrait. Ce qu'il voulait dire, c'est que tout d'un coup, ce qui était vécu devient du vu, que tout ce qui est vécu de fait image, et que c'est des images qui rendent le vécu vrai. Enfin bon, et c'est ça qui est très intéressant chez Debord, c'est que si vous voulez, si on applique ça à notre quotidien, le documentaire, c'est quelque chose, par exemple, qui se fait avec une certaine connivence entre l'interviewé et l'intervieweur. À partir des années 80, on a des émissions de télé où les gens viennent se donner en spectacle et comment dire, réduire leur vie vécue à simplement des images. Et c'est cette surface des choses, si vous voulez, que condamne en fait La Société du Spectacle, le livre de Guy Debord.
Et pourtant, le documentaire, c'est de l'image aussi, quand même,
avant
tout.
Oui, bien sûr.
Hein.
C'est bien sûr, mais ce qui est important, et c'est, si vous voulez, dans ce livre, j'ai essayé de comprendre quelles étaient les conditions d'extension de la méchanceté. L'une des conditions, c'est qu'effectivement, tout devient spectacle. On peut même dire à un moment que pour exprimer ses émotions, il faut des signes visibles comme les larmes, et que les larmes, on va les employer aussi bien pour la libération d'un otage que pour deux amis qui se retrouvent, c'est très très large, parce que c'est un signe visible. Mmh. Et voilà un signe, hein, voilà un signe visible qui connote, enfin qui veut dire le malheur.
Mmh. Mais c'est complètement galvaudé alors, c'est ce que vous laissez entendre aussi.
C'est complètement galvaudé, et ce qui est important, c'est que dans ces émissions des années 80, non seulement les gens réduisent leur vie à des scènes, à du vu, etc., mais en plus, se constitue un public qui est visible parfois dans l'image. C'est-à-dire que ce n'est plus l'entretien en tête-à-tête d'un interviewé et de l'intervieweur, c'est quelque chose où les autres vont juger du spectacle et ils sont visibles comme jugeant le spectacle parce qu'ils peuvent rire, pleurer, interrompre le spectacle.
Quels sont vos terrains d'observation, justement, François Jost, pour étudier cette question de la méchanceté à l'ère numérique? Parce que vous partez de beaucoup plus loin, en réalité.
Voilà. Alors en fait, oui, bien sûr. Ce que j'essayais de faire, c'est comprendre comment on arrive à la situation actuelle. Et pour comprendre comment on arrive à la situation actuelle, je suis parti d'un journal qui se réclamait bête et méchant, qui a Harakiri, donc un journal. Mmh. Après, les émissions de télévision, notamment ce qu'on appelait les reality shows, et puis la télé-réalité, ou la télé de coaching, et puis les magazines pour étudier le bashing, qui nous apprennent comment on a pu détruire parfois des hommes politiques, que ça soit Sarkozy ou Hollande, pour arriver aux réseaux sociaux.
Ouais, alors justement, Harakiri, oui. Quel est le rôle au fond de ce journal à l'époque, précisément, dans un cadre politique et sociétal tout à fait particulier? C'est quoi? C'est un contre-pouvoir quand même, Harakiri, très clairement.
D'une certaine façon, oui. C'est un journal qui naît en 1960, qui est interdit en juin ou juillet 1961. Donc on voit qu'il a un rôle assez important, d'autant plus qu'on lui reproche d'être lu beaucoup par les lycéens et donc d'avoir une mauvaise influence sur les lycéens. Alors qu'est-ce qu'il fait ce journal? Ben, il se moque de beaucoup des lois qui sont produites par le gouvernement, enfin par les gouvernements de Gaulle, notamment la loi sur les mœurs qui régit à la fois l'homosexualité, l'alcool et la prostitution. Donc deux sujets qui sont réprimé très fortement. Alors Harakiri prend tous ces sujets et s'en moque en poussant le ridicule assez loin, en montrant que... Alors il s'en prend aussi, Harakiri, à la religion. Et c'est tout ça dans pleine guerre d'Algérie, où par exemple on va avoir des images très très frappantes, comme le général Massu qui a fait la guerre d'Algérie de façon brutale, comme on sait, et à côté un singe qui fait le salut militaire. Donc c'est des rapprochements extrêmement durs, qui disent beaucoup de choses, donc sur... contre la société, et on pourrait penser que finalement 68 a été un petit peu le prolongement de certaines mises en cause du journal.
Contre Harakiri. La société et pour la société, pour éveiller les consciences aussi. C'est quand même ça le rôle de Harakiri. Hein.
Tout à fait, c'est-à-dire que le journal se situe entre les intellectuels qui sont complètement tournés vers eux-mêmes, qu'ils appellent les nombris d'or, et la masse qui pour eux dort parce qu'elle est endormie par des grands médias déjà, comme France Soir à l'époque.
Donc c'est la troisième voie. Hein.
C'est la troisième voie, absolument. Ouais. C'est une troisième voie qui serait celui de une voie de lanceur d'alerte finalement, d'éveilleur, on pourrait dire aujourd'hui.
Comment est reçu Harakiri justement dans cette société gaulliste de l'époque?
Alors, il y a un jeune public, c'est vrai, mais dès le départ, la revue a beaucoup de problèmes et va être interdite, effectivement, au bout de quelques mois d'existence. Alors, sur des sujets pour pornographie et sadisme, j'ai bien cherché dans la revue, il y a absolument pas de pornographie, on peut dire, et le sadisme est plutôt de l'humour noir, c'est-à-dire que on rit alors d'une façon qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui, je pense vraiment, c'est-à-dire qu'on rit de choses qui sont tabous, comme la mort, comme la maladie, comme le sexisme, comme des tas de choses de genre là.
Est-ce que Charlie est l'enfant direct de Harakiri ou pas?
Alors Charlie est en partie la suite effectivement, et par exemple même les attaques sur la religion qu'a fait Charlie Hebdo, on les trouvait déjà dans Harakiri, évidemment.
Allez, on va voir comment s'est transformée justement la méchanceté. Hein. C'est un exemple, en tout cas, que vous illustrez avec Harakiri, mais évidemment, elle va prendre d'autres formes au fil des décennies. C'est ce qu'on va voir avec vous pendant cette tête au carré, avec les messages sur franceinter.fr. Le temps d'écouter Angèle et Je veux tes yeux.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends, qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux, je veux les deux sans sentir ta peau. Un jour peut-être on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'inventes pas trop d'histoires. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. Je veux tes yeux.
Tête au carré, Mathieu Vidard.
François Jost, sémiologue avec nous, La méchanceté en acte à l'ère numérique. C'est au CNRS édition avec les messages des auditeurs qui arrivent sur Twitter. Canteloup nous dit exercer son esprit critique de manière rapide et sèche. Est-ce que ça relève de la méchanceté, François Jost?
Alors non, pas forcément, bien évidemment. Ça nous amène peut-être à un autre sujet qui est celui de la notation. C'est-à-dire qu'il y a une façon très sèche d'exercer son esprit de façon critique envers les autres, c'est de le noter. Alors on voit dans une série comme Black Mirror où une femme veut prendre l'avion et malheureusement elle ne peut prendre l'avion que si elle a 4,5 de moyenne et elle rencontre sans arrêt des problèmes, sa note baisse et elle ne peut plus prendre l'avion. Enfin bon, ouais,
on va écouter un extrait dans un instant de Black Mirror, mais poursuivez donc pour répondre à
donc
cet auditeur.
Dans ce cas-là, c'est vrai qu'on a une façon lapidaire de juger qu'est la notation qui s'est introduite partout, aussi bien pour noter un restaurant que un hôtel que dans le pire des cas des gens qu'on rencontre. Il y a une application qui a existé qui s'appelait People qui consistait à noter tous les gens qu'on rencontrait en disant bon celui-là il est sympathique pas sympathique je lui mets 2, je lui mets 3, etc.
On voit dans les taxis Uber par exemple aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut noter le chauffeur mais le chauffeur peut noter le client aussi, hein, donc c'est dans les deux sens.
Ça va dans les deux sens et effectivement il est difficile pour le client s'il a été très mal noté de retrouver un taxi.
Donc c'est effrayant ça un petit peu, non, parce que ça veut dire on entre de plein pied dans cette société-là qui est en train de se noter de toutes parts.
Ben oui, et au fond, c'est quand même une sorte de délation généralisée et qui ne laisse pas beaucoup de seconde chance, comme on dit. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a été mal noté, il faut ramer pour remonter sa note.
Alors, cette société qui note à tout va, ça a justement inspiré effectivement cette série Black Mirror pour l'un de ses épisodes. On en écoute un extrait.
Je tiens à te souhaiter tout le bonheur possible que ce monde stupide pourra te procurer. Ça fait pas un peu trop, la petite larme?
T'es une putain de sociopathe.
J'ai seulement envie de faire plaisir à Naomi pour son mariage. Et oui, c'est vrai, si en prime ça me rapporte un max de points de la part de ses amis populaires, je vois pas où est le mal.
C'est quoi ton objectif? Tu vises combien? 4.3, 4.4...
Oh, génial! Mon taxi s'est barré. Il m'a mis une sale note, j'ai plus qu'à m'en trouver un autre, et en prime, je perds des points. Bravo, super!
Oh, ben excuse-moi si je te préférais quand t'étais normal. Bien avant cette obsession de la note, quand on discutait pendant des heures, tu te souviens?
Il me faut mon chargeur.
Toute cette histoire de notation, je trouve que c'est... Comment tu peux vouloir te comparer à...
T'aurais pas vu mon chargeur?
À des gens qui font semblant d'être heureux. Je suis sûr que les gens comme Naomi sont tous dépressifs et suicidaires, en vrai.
Mon taxi est là, je me barre d'ici. Tu sais pourquoi j'ai jamais ramené un seul mec à la maison? Parce que je ne voulais pas qu'il voie que je partageais un taudis dégueulasse et répugnant avec Monsieur 3. Point de merde.
Voilà, effrayante. Hein. Elle est très intéressante cette série parce qu'elle nous interroge très justement sur l'usage de nos outils aujourd'hui, parce qu'on a déjà un pied là-dedans, hein, dans ce qui est décrit là dans cet extrait. On y est vraiment même. Hein. C'est-à-dire que voilà, cette société maintenant, elle se note à tout va.
Et en même temps, c'est de la réalisation de ce que Sartre disait, l'enfer c'est les autres, dans lequel, dans Huis Clos, il expliquait que le vrai enfer, c'était le jugement, d'être soumis au jugement des autres sans arrêt. Et cet enfer est réalisé aujourd'hui.
C'est ça. Et c'est même un des ressorts aujourd'hui de la télévision, par exemple. Hein.
Alors c'est un des ressorts, c'est-à-dire qu'après des émissions où les gens venaient se confier, on en a fait un spectacle au point que on peut juger de façon très lapidaire par un coup de téléphone, par plutôt un SMS qu'on envoie. Et effectivement, beaucoup d'émissions sont nées, comme Un dîner presque parfait, dans lesquelles il s'agit de noter l'autre. Alors vous allez chez des amis, ils se décarcassent pour vous faire un très bon repas, et vous sortez, vous dites la table était moche, la bouffe était dégueulasse,
c'est ça.
Et on s'est ennuyé toute la soirée. Voilà. Alors ça, normalement, ça se dit.
Mais c'est la vraie vie, ça.
Ça se dit dans la voiture en rentrant, mais là, on le dit dans l'émission.
Et on note, et ça fait le jus de ces programmes, et leur succès également. Voilà. Pareil, on y reviendra tout à l'heure à cette émission. Alors, si on revient tout petit peu en arrière, parce que c'est amusant aussi cette historique au fond des médias que vous retracez dans l'ouvrage, l'un des tout premiers programmes à la télévision qui voit vraiment basculer aussi cette société du spectacle, c'est Psycho. Hein, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure en filigrane. C'est-à-dire que là, on met les cas sur le plateau, on invite le psychanalyste, et on déballe la vie des gens, la vie des couples qui se racontent. Et ça, je me souviens, moi, à l'époque, ça a quand même été quelque chose d'inouï. Hein.
Ah oui, on a parlé aussi de télépoubelle à l'époque. Ouais, ouais. Le titre même de Psy Show montre toute l'ambiguïté, puisque absolument. C'est psy, mais c'est un show, c'est un spectacle. Ouais. Et dans ce spectacle, très curieusement, il y avait un très grand psychanalyste qui était Serge Leclerc, un psychanalyste lacanien, qui était chargé de résoudre en quelques dizaines de minutes, finalement, le problème d'un couple.
Ouais. Ce qui va complètement à l'encontre de l'éthique même de la psychanalyse.
Ce qui est très étonnant, parce que c'était un psychanalyste absolument réputé, mais ça allait tout à fait à l'encontre. C'est-à-dire que ce qu'on garde normalement dans pour le silence du cabinet, ça devenait une sorte de spectacle. Et alors, il y avait des amis ou de la famille autour du couple qui venait témoigner. Ouais. Et les gens donnaient des conseils ou jugeaient, etc. Donc, on a commencé à associer, si vous voulez, la mise en spectacle dont parlait Debord et le jugement qui est l'enfer selon Sartre.
Ouais, François Josse, la toute première émission, je crois que c'est avec ce couple de garagistes.
C'est un couple de garagistes.
Racontez-nous un peu, parce que c'est quand même assez succulent. Hein.
C'est un couple de garagistes qui vient et la femme explique que son mari est éjaculateur précoce et que de ce fait, elle a pris un amant et donc il va falloir les soigner et en une heure, tout va bien, ils repartent.
Donc il y a un petit reportage, on les voit.
On les voit jouer par d'autres.
À la
il y a un petit reportage,
service.
Absolument. Voilà. Et on les fait aussi jouer par d'autres. Et ils se donnent en spectacle avec une sorte d'attendrissement, c'est-à-dire on les voit même parfois pleurer en regardant les images d'eux à la télé.
Exactement. Alors, où est la méchanceté finalement là-dedans pour retomber dans votre ouvrage
la méchanceté, c'est le point de départ, si vous voulez, c'est le fait que le jugement va se généraliser partout. Ça c'est effectivement une émission qui est encore, je dirais, assez soft, mais ça va devenir un commencement de programme où on juge les autres, on les note, on téléphone. Ouais. Ça s'accompagne de d'évolution technologique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a le téléphone, on peut noter par de loin et accentuer le processus.
Ouais, ça fait voler en éclats l'intimité, la pudeur quand même, tous ces programmes là déjà.
Bien sûr, ça fait voler en éclats la pudeur, ça recentre sur le moi, qui sera aussi une des origines de la méchanceté dans ces manifestations les plus dures, parce que finalement, tout étant centré sur le moi, les autres sont un danger. Et donc, de peur de se faire ennuyé par les autres, on va les détester. Il y a cette vengeance par anticipation dont je parlais tout à l'heure, qui existe dans la haine.
Alors, ça dénature aussi, ça c'est un des autres effets pervers, la parole aussi de l'expert, du spécialiste. D'ailleurs, ce psychanalyste, en se prêtant à ce spectacle, dénature aussi la discipline.
C'est ça. Alors, y a en filigrane dans toute cette histoire de la méchanceté cette opposition entre l'expertise et le profane. Ouais. C'est-à-dire que on reproche à la télévision, on reproche aux médias d'avoir toujours des experts. Alors, avec la télévision publique jusqu'en 1986, évidemment, on reprochait beaucoup que le gouvernement, que les experts tiennent la parole partout. Et on va dire tout d'un coup, il y a une libération, les anonymes peuvent venir parler et ils vont dire une autre donnée, libérer une parole qui n'est pas celle des experts. Et cette lutte entre les experts et l'anonyme va durer pour tous les médias. C'est-à-dire tous les médias vont manifester cette lutte contre l'expertise, contre les élites, qu'on retrouve encore évidemment très fortement aujourd'hui et dans les émissions et dans les discours politiques.
La télévision et bien sûr les réseaux sociaux et le web où la méchanceté a vraiment beaucoup de place pour s'exprimer. On y revient avec vous dans la dernière partie de l'émission dans un instant. François Josse à l'appui de cet ouvrage, La méchanceté en acte à l'ère numérique au CNRS Éditions.
Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui boit. Dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu. Et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui. Et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir. De la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin je t'aime à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivres. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves. Même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance. Il dit ramons tous à la même cadence. Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar et change ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme. Sur le détroit de Gibraltar.
Abd al-Malik avec Gibraltar.
Pourquoi est-il aussi méchant ?
La tête au carré.
La méchanceté en acte à l'ère numérique au CNRS, édition François Jost est notre invité avec les messages des auditeurs. Il y a Coralie sur Twitter qui nous rappelle ceci. Karine Le Marchand a décidé de quitter Twitter justement il y a très peu de temps à cause de la méchanceté ambiante. Elle explique qu'elle décide de quitter justement le réseau parce que Twitter est devenu un déversoir de haine et qu'elle n'a plus plaisir à communiquer. Je ne veux pas devenir insipide en choisissant mes mots. Je ne veux pas réduire ma pensée, changer mon humour. Voilà ce qu'elle revendique.
Oui, mais on la comprend, parce que d'autant plus que, pour continuer ce qu'on disait tout à l'heure, du fait qu'elle est très connue, qu'elle est exposée, elle est la cible forcément de la haine, parce que la haine la méchanceté sur Twitter ou sur les réseaux sociaux consiste à déboulonner les statues, comme je le dis. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment, quand quelqu'un est exposé, de le démolir.
Voilà. Un journaliste, par exemple, aussi. Hein.
Un journaliste, enfin, la aussi, preuve, bien sûr.
Et ça a été votre cas au Nouvel Obs, hein.
Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Je ne sais pas si on parle des trolls,
bien sûr,
qu'on évoquait tout à l'heure, mais évidemment le troll est parfois difficile à repérer parce que c'est quelqu'un qui précisément s'avance masqué, en général de façon anonyme, ouais, et qui est là pour interrompre les discussions, qui est là pour casser la sociabilité qui peut s'établir.
Ouais, et pour faire réagir, évidemment, hein, et pour faire parler de lui.
Pour détourner, si vous voulez, ouais, une conversation qui serait trop bien huilée.
Bertrand nous dit, un troll n'est pas nécessairement méchant et tous les méchants ne sont pas des trolls et des méchants non-trolls passent par exemple sur des radios de service public, at France Inter, dit-il.
Non, mais bien sûr, tous les méchants ne sont pas des trolls. Il faut déjà qu'ils soient sur le numérique. Mais en revanche, les trolls sont par définition des gens méchants dans la mesure où ils essayent de nuire à quelqu'un.
Ouais, tout en gardant l'anonymat.
Tout en gardant l'anonymat.
Ça, dans la mécanique du troll, c'est voilà, très important
c'est,
aussi.
C'est un des problèmes. Et c'est une des conditions de l'extension de la méchanceté aujourd'hui. On a vu la mise en spectacle, on a vu le jugement. Il y a l'anonymat aussi. C'est-à-dire que c'est sans risque, évidemment, de détruire quelqu'un. Puisque si vous faites une lettre anonyme, la police va rechercher quel est l'auteur. Là, c'est souvent comme si vous receviez 10 lettres anonymes en même temps. En plus, ce sont des lettres ouvertes, c'est-à-dire que tout le monde peut les lire.
Ouais. Pierre nous dit, est-ce que Socrate était méchant en détruisant les croyances erronées,
François Bien sûr que non, bien sûr que non. Socrate, un style du doute, c'est tout à fait différent.
C'est propre de la philosophie.
Et bien sûr qu'il faut. De même qu'il y a une méchanceté, on ne l'a pas dit pour l'instant, mais il y a une méchanceté aussi positive, si vous voulez, qui est celle de l'humour noir ou de la satire sociale.
C'est quoi la nuance, justement, entre l'humour noir et la méchanceté, alors?
L'humour noir rit de nos préjugés, de nos... par exemple, je donne un exemple dans Dorakiri, un médecin qui tend un revolver à un patient lui disant « il n'y a plus que ça pour vous ». Ça joue avec nos peurs de la maladie, mais ça fait de mal à personne, je dirais. Ouais. Ça joue simplement avec nos peurs et nos angoisses.
Ouais. On va écouter cet extrait d'un dîner presque parfait qui a fait des millions de vues sur la toile. Vous résumiez tout à l'heure cet extrait. C'est donc un dîner et puis découverte au dessert d'une cerise qui serait issue d'une boîte de conserve. Voilà. Et là, c'est le drame et les injures pleuvent.
Je ne m'attendais pas à un repas comme celui-là.
Mais toi, t'en as pensé quoi? Ma salade de fruits, dis-moi.
C'est de la cerise en conserve.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'au dedans, il y a des fruits qui dans une boîte de conserve, c'est ça?
Ouais.
Bah moi, franchement, moi j'aurais eu honte. Hein. Tout simplement.
Enfin, de quoi?
De servir des fruits, d'une boîte de conserve. On est quand même dans un dîner culinaire.
Un conseil? Ferme ta gueule.
Pète un câble, voilà, un conseil, ferme ta gueule, non, au contraire.
Donc tu vas pas commencer à me casser les couilles, parce que si je me lève, tu vas vraiment...
Je te dis juste mon point de vue.
Je te le dis juste. Voilà. Tu dis ce que tu veux, tu dis pas des trucs comme ça.
Prendre un verre d'eau à la tête, ça va surtout donner une excuse pour tout laisser en plan et vite rentrer chez moi.
Moi, je suis cash, un verre à la gueule et il se barre.
Et voilà, et ça se passe comme ça dans un dîner presque parfait. Il faut aller voir cette vidéo parce qu'elle est extrêmement drôle. En plus, ils sont déguisés au moment où ça se passe, où ce drame se passe, où ça dégénère autour d'une cerise, une boîte de conserve.
Alors c'est vrai que là, on sait même plus qui est méchant parce que il y a évidemment le type qui dit quoi, la cerise vient d'une boîte de conserve, c'est pas possible, etc. Ouais. Se tient de façon mal élevée parce qu'il n'a pas à le dire, et l'hôte qui lui envoie un verre d'eau à la figure, c'est encore pire.
Donc il y a tous les commentaires en plus qui suivent la scène.
Commentaire, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fond, on va pas en vouloir à cette femme qui lance un verre d'eau à un de ses invités parce qu'elle lance un verre d'eau, mais plutôt parce qu'elle a pas bien fait, elle a pas fait un bon repas.
Ouais.
Donc c'est assez curieux, c'est-à-dire que la violence est plutôt justifiée et plutôt comprise comme un signe d'authenticité. C'est-à-dire que cette violence-là, on dit, elle est en dehors de la politesse, de la courtoisie hypocrite de notre société, elle est donc plus vraie. Ce qui est tout à fait évidemment étonnant.
Mais il y a la pression de la note quand même, parce que c'est ça aussi qui est à la base
de la note.
Cette discussion tendue là.
Il y a la pression de la note avec quelque chose d'assez incroyable, c'est que tous ces gens se notent entre eux, ce que normalement on ne fait pas dans la vraie vie.
Oui. Ah, sauf que Flore nous dit, au niveau des entreprises, on note les employés lors des réunions où tout le monde met une note à chaque employé sans que l'employé soit présent. Des notes bien dures face auxquelles il ne peut surtout pas se défendre ou argumenter contre. Donc on voit que ça y est.
Ça existe donc dans la société. Ouais. C'est vrai qu'aux États-Unis, vous avez dans n'importe quel restaurant l'employé du mois qui est affiché aussi.
Exactement. Quand on va au McDo par exemple.
Oui, c'est pour ça que toutes ces émissions, moi je considère toujours d'un point de vue, pour revenir à la sémiologie, non seulement qu'elles sont des signes, mais qu'elles sont des symptômes d'un certains autres de fonctionnement dans notre société.
Ouais, Pierre nous dit, est-ce qu'il n'y a pas un fort côté émotionnel derrière le méchant? Le premier méchant que nous connaissons, ce sont les parents qui ne cèdent pas à nos pulsions d'enfant.
Je ne crois pas non plus. Je pense que les parents, à condition qu'ils n'ont plus le droit de donner des fessées, ils n'ont plus le droit de donner des gifles, qui étaient des gestes méchants, mais l'éducation n'est pas une méchanceté en soi.
Ouais. Internet, ça a complètement fait exploser justement ce phénomène de la méchanceté. Hein. L'amplification est énorme, la caisse de résonance absolue.
Oui, bien sûr. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais qui est évidemment très importante, c'est que cette méchanceté n'existerait pas si le public ne prenait pas beaucoup de plaisir à cette méchanceté.
Alors, mais c'est les jeux du cirque, quoi, au fond.
C'est les jeux du cirque. Je cite cette phrase intéressante d'un philosophe du XVIIIe siècle qui dit « Mais finalement, pourquoi éprouve-t-on autant de plaisir à voir une tragédie? C'est-à-dire voir les gens qui sont dans de mauvaises positions, de mauvaises postures. Eh bien, on est toujours là. C'est-à-dire que ce plaisir de voir, mais alors, pas seulement des êtres fictifs, mais des êtres réels, dans des conditions déplorables, des conditions de ridicule, plaît aux spectateurs.
Oui, donc ça c'est vraiment un signe des temps aujourd'hui, un symptôme plutôt de notre époque.
Ben, c'est-à-dire que c'est un symptôme de notre époque dans la mesure où ce qui était interdit, caché auparavant, a été libéré d'abord par la télévision qui a permis de juger les gens et d'autre part évidemment par les réseaux sociaux.
Alors vous qui êtes un observateur attentif précisément des médias et de son évolution, François Jost, ce qu'on voit aujourd'hui aussi beaucoup quand même, c'est que ce sont les polémiques qui prennent le dessus et qui font le sel et l'actualité aussi quotidienne.
Oui.
Il y a un renversement aussi de ça quand même. Sur le fond des choses. C'est quand même très, très inquiétant ce qui se passe là.
Bien sûr, vous savez, c'est vrai qu'on sait qu'il n'y a pas de récit avec que des gens heureux. C'est-à-dire que le récit comprend lui-même, depuis Aristote, on le sait, le conflit. Il faut qu'il y ait des conflits. Et donc, d'une certaine façon, les médias fabriquent parfois des conflits. C'est-à-dire qu'il s'agit d'opposer des gens. Et cette opposition permet aux spectateurs de prendre parti, d'être pour, d'être contre et d'exercer.
Et donc là, on excite le public et le lecteur aussi. On sait pertinemment qu'en mettant en scène ces duel, eh bien, on va créer quelque chose qui va susciter l'attention quand même.
Bien sûr.
Ou qui va faire des clics sur Internet.
C'est pour ça que c'est une sorte de cercle vicieux, parce que effectivement, le média va fabriquer la polémique, nous, on va l'accepter, et donc, il est très symptomatique de voir aujourd'hui que beaucoup des polémiques qui se trouvent sur Facebook ou sur Twitter sont reprises comme une information par les médias, et que les médias partent de cette information, alors qu'au fond, une façon de les oublier, ça serait de ne pas en parler.
C'est ça. Mais est-ce que là, les médias traditionnels ne sont pas fait dépasser, au fond, et submerger par cette vague de fond, là?
Oui, mais je pense que, si vous voulez, ils sont très dépendants de ces polémiques. Il y a toujours cette crainte des médias anciens d'être dépassés par les nouvelles inventions technologiques. Et donc, plutôt que d'être dépassés, ils vont vers ces nouveaux usages.
En commentant les commentaires les scandales à répétition, parce qu'on a un scandale par heure quasiment aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
Et
un scandale chasse l'autre.
On oublie que Twitter n'est pas utilisé par des millions de gens, c'est une petite population, et cette population, on lui donne effectivement beaucoup d'importance dans les informations.
Quelle est la conclusion de ce travail, François Jost, sur la méchanceté en acte
La conclusion, c'est que finalement, dans beaucoup des batailles de méchanceté qu'on voit aujourd'hui, il y a une sorte de continuation de lutte de classe, je dis. C'est-à-dire qu'on voit comment on oppose systématiquement le goût des uns au goût des autres, comment le goût de l'un devient le dégoût de l'autre. Et donc, d'une certaine façon, c'est une autre façon de mettre en scène les oppositions dans notre société.
Merci à vous d'être venu dans La Tête au Carré aujourd'hui. Ce livre, donc La méchanceté en acte, est publié aux éditions du CNRS. Merci.